qu'effectivement, on arrive vers cette période de la fin de l'année, période où effectivement, il y a beaucoup de questions de cadeaux, où souvent, enfants, adultes aiment bien cette période, au moins une fois que tout le stress est passé. Par contre, c'est une période de l'année qui est beaucoup moins populaire chez les dindes. Déjà, il y a le risque de se faire manger à Noël chez nous. Puis, vous avez peut-être vu aux infos cette semaine ces deux personnages. En effet, donc, le président Trump était aux infos cette semaine pour avoir gracié deux dindes qui n'allaient pas se faire massacrer pour le repas du Thanksgiving. Alors, nous, quand on parle de fête de Thanksgiving, de repas de Thanksgiving, tout de suite, ça tourne nos pensées vers les États-Unis et on dit « Ah, ça, c'est un truc américain. » Sauf que, comme pour beaucoup de ces choses qui sont accusées de traverser l'Atlantique dans le sens Amérique-Europe, c'est finalement une fête qui avait commencé dans l'autre sens, qui avait traversé l'Atlantique depuis l'Europe vers les États-Unis, un peu comme quand les gens disent « Ah, les églises évangéliques, c'est un truc américain qui vient des États-Unis. » Non. C'était des chrétiens évangéliques qui sont allés s'installer aux États-Unis d'abord, depuis l'Europe, et puis après, c'est revenu vers nous. Mais finalement, cette fête de Thanksgiving, ce n'est pas autre chose que la fête de la moisson que nous célébrons en Europe. Comme moi, j'étais jeune, dans toutes les églises, toutes tendances confondues, il y avait toujours, vers le mois de septembre, un culte de reconnaissance, d'action de grâce pour la moisson. Je sais, en Allemagne aussi, il y a l'Erntedankfest, un culte spécial pour remercier le Seigneur pour la récolte, pour la moisson. Finalement, Thanksgiving, pour les Anglais, ça s'appelait toujours Harvest Thanksgiving. Bon, ils ont laissé tomber le mot de la moisson, ils ont gardé le côté Thanksgiving, donc, qui était à la base en 1621, un repas où les colons anglais ont invité les Amérindiens à venir manger avec eux pour remercier Dieu pour le fait qu'ils avaient survécu à leur première année très difficile là-bas, et que Dieu leur avait permis de récolter de la nourriture pour pouvoir survivre. C'est là où justement donc, cette idée de Thanksgiving, d'action de grâce, est intéressante pour nous, puisque finalement, rendre grâce, l'action de grâce, souligne des principes que la Bible nous enseigne pour la vie chrétienne. Donc, je propose qu'on puisse lire ensemble Colossiens, chapitre 3, ce matin. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Passage qui va nous parler justement de la vie chrétienne et de la reconnaissance. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors ce passage commence par nous dire quelque chose qui peut-être vous semble un peu bête à dire, qui est une évidence, c'est-à-dire que la vie chrétienne concerne les chrétiens. Ça peut effectivement sembler tout bête, mais finalement, on peut parfois comprendre les choses à l'envers, un peu sur le principe de la fameuse théorie qui dit que les chiens ont quatre pattes, mon chat a quatre pattes, donc, de toute évidence, mon chat est un chien. En Europe, on parle souvent du fait qu'on a des racines judéo-chrétiennes qui ont créé une culture sur des bases judéo-chrétiennes. Et pendant longtemps, il était tout à fait facile en Europe d'être ce qu'on pourrait appeler un chrétien de culture. On se comportait un peu comme un chrétien. On pensait un peu comme un chrétien, mais parce que c'était la culture qui imposait les valeurs bibliques sans forcément qu'on croit réellement au sacrifice de Jésus, sans qu'on ait une relation, qu'on ait une vie avec le Seigneur. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque nous croyons que la parole de Dieu est une sagesse, que ce serait la meilleure manière pour vivre en société, de suivre les voies de Dieu. Le problème, c'est que ça a tendance aussi de broyer l'enseignement biblique sur ce que cela veut dire d'être un chrétien. Tout comme un chat qui a quatre pattes n'est pas vraiment un chien, quelqu'un qui fait des choses qui sont enseignées dans la Bible simplement parce que c'est leur culture, sans avoir une relation avec Dieu, n'est pas vraiment chrétien non plus. Ils ont juste cette culture. Parce que la Bible nous dit que pour devenir chrétien, naître dans une société dite chrétienne ne suffit pas. Il faut passer par la nouvelle naissance, recevoir la vie par l'Esprit, en entrant en relation avec Dieu par la foi. L'apôtre Paul va parler de la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Ce qui est né de la chair, va dire Jean en citant Jésus, est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est l'esprit qui donne la vie spirituelle dans le Seigneur. Cette vie qui est cachée avec Christ en Dieu, qui est centrée dans la personne de Jésus pour que Paul puisse dire « Quand Christ, votre vie paraîtra. » Notre vie, si on est chrétien, c'est Christ. Il est la personne, l'élément le plus essentiel, le plus central à notre vie. C'est plus qu'avoir un certain comportement. C'est avoir une relation vivante avec le Seigneur. Et donc, avant de parler du caractère chrétien et des comportements chrétiens dans la suite de ce passage, Paul pose tout de suite le contexte en disant « Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors agissez de la manière suivante. » Ça vous concerne, vous qui croyez que Dieu vous a fait grâce, qui vous a ressuscité avec Christ, comme il a dit dans sa promesse de faire lorsque on met sa foi en Jésus-Christ et dans son sacrifice. C'est finalement la définition même de ce qu'on appelle souvent le fait de vivre par la foi. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». Vivre par la foi, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai, et puisque nous croyons cela, d'agir de telle ou telle façon. Non pas parce que c'est ainsi que nos parents nous ont élevés, non pas parce que c'est ainsi que la société va nous approuver ou non, mais parce que c'est la conséquence directe de croire dans le Seigneur Jésus et de croire que Dieu a fait de nous, comme on a vu le week-end dernier, son peuple. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, et donc faites mourir ce qui est terrestre pour vivre pour ce qui est spirituel, ce qui est céleste. Puisque donc, effectivement, la vie chrétienne qui concerne les chrétiens, qui est la manière de vivre qui doit être imposée aux chrétiens et pas au monde en général. On ne peut pas, comme dit l'apôtre Paul, imaginer que le monde va se comporter de manière chrétienne si la vie chrétienne n'est pas là. La vie chrétienne concerne notre caractère. Là aussi, il est facile de comprendre les choses à l'envers, de se concentrer que sur certains comportements, sur certaines instructions, de dresser un code de la vie chrétienne et de dire, bon, ben là, Dieu me dit clairement que je dois faire ceci ou je ne dois pas faire cela, mais bon, pour le reste, il y a beaucoup de choses dont Dieu ne parle pas, donc je me débrouille. Dieu désire avant tout non pas nous donner juste une liste de choses à faire, une liste d'instructions, une liste de commandements. Dieu désire changer notre caractère au plus profond possible. Amen. Il veut pénétrer dans notre cœur, dans notre être, pour que notre comportement ne soit pas simplement un esclavagisme à un certain code de règles, mais pour que ce soit le fruit d'un caractère transformé pour ressembler au caractère de Jésus-Christ. Donc on le voit par exemple dans le verset, les versets 9 et 10, Paul dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Il aurait pu juste s'arrêter là et dire « Voilà, c'est un ordre, point final, vous n'avez pas à discuter ». Mais il dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il dit, si je vous dis cela, ce n'est pas en tant que loi que je le dicte, c'est simplement pour vous montrer que c'est le fruit de ce changement des caractères que Dieu veut faire produire en vous. Dieu veut que vous mettiez de côté le vieil homme. Pourquoi ? Parce que vous croyez que vous êtes ressuscité avec Christ. Qui a besoin d'être ressuscité ? Ce n'est pas quelqu'un de vivant. On ne prie pas pour la résurrection de quelqu'un qui est vivant. Les seuls qui ont besoin de résurrection, ce sont les morts. Donc si on croit qu'on est ressuscité avec Christ, on croit qu'on est mort avec Christ. Si on est mort avec Christ, on dit, ben, pourquoi est-ce que vous traîneriez toujours avec vous cette personne qui est morte? Ça n'a aucun sens. Vous avez cloué cette personne sur la croix, dans le corps de Jésus-Christ, le moment où vous avez compris l'évangile par la foi et que vous vous êtes rendu compte que c'est moi qui méritais la mort pour mes péchés, c'est Christ qui a pris ma place, donc en réalité, je me suis condamné moi-même à mort. Et quand Christ est mort sur la croix, c'était en portant mes péchés dans son corps sur la croix, donc en fait, c'est comme si c'était moi qui est mort ce jour-là. Et du coup, Paul dit, bah, la suite, c'est de dire, bah, si je suis mort, je ne peux plus, je ne dois plus traîner cette personne encore avec moi. Je ne dois plus vivre de cette manière-là. En tant que chrétien, Dieu ne nous laisse plus le loisir de dire, ah bah, frères et sœurs, il va falloir m'excuser parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon grand-père était comme ça, donc il va falloir vivre avec. Dieu dit, ben non, parce que cette personne-là est morte sur la croix avec Jésus-Christ. Vous êtes maintenant ressuscité. Il dit, le défi de la vie chrétienne, c'est de vivre comme des gens qui ont réellement été ressuscités avec Christ. Pour ça que Paul va dire dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux plus me cacher derrière l'excuse que je suis comme ça. Parce que j'ai été crucifié. Cette personne qui était comme ça a été crucifiée. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, et moi, je suis ressuscité avec lui, pour que lui, il vit en moi. » Pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes sauvés par la foi seule, sans pour autant que cela ouvre la porte au péché. C'était l'accusation qu'on portait contre l'apôtre Paul. On dit, les gens disaient, mais il est très dangereux, ce prédicateur-là. Son message est très dangereux. Il dit aux gens qu'ils n'ont plus à vivre sous la loi. Mais si on dit aux gens qu'ils n'ont plus à vivre sous la loi, ils vont vivre n'importe comment, parce qu'ils ne sont plus sous la loi. Mais Paul disait, est-ce que réellement, ayant été sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à vivre dans le péché. Vous pouvez le lire dans Romains 6. Il dit non, loin de nous une telle pensée, parce que la personne qui vivait dans le péché, ces péchés dans lesquels vous viviez autrefois, il dit aux Colossiens, cette personne-là est morte. Je suis ressuscité pour être une personne nouvelle. C'est la conséquence, donc, de ma foi. Puisque je suis, vous êtes ressuscité, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Faites mourir ces choses-là. Renoncez à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques. Ne mentez pas les uns aux autres. Parce que vous vous êtes dépouillé, vous avez mis de côté cette vieille nature et vous avez revêtu en ressuscitant avec Christ l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu désire transformer notre nature pour qu'on ressemble à Jésus et pour que cela se voie dans notre manière de vivre. Mais si Paul commence ce passage en nous disant que la vie chrétienne concerne les chrétiens, il termine le passage en disant que cette vie chrétienne concerne avant tout Dieu et nous tourne d'abord vers Dieu, nous concentre sur Dieu. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est d'ailleurs là aussi qu'on voit que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus qu'un simple code où on cherche le verset dans la Bible qui parle de telle chose et on dit, bon, ben, ça je fais ou ça je fais pas, mais pour le reste, Dieu désire changer notre caractère à tel point que quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Notre vie entière doit être tournée vers le Seigneur. Dans le verset 23, un peu plus loin, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » 1 Corinthiens 10 « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En tant que chrétien, il n'y a jamais de retraite, il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais de temps libre, puisque ben, finalement, si on est mort ou si on est vivant, on n'a pas non plus de temps libre, de temps de retraite. On n'arrête pas de vivre pour après reprendre un peu plus tard. Soit on est vivant, soit on est mort. Toute notre vie, tout notre caractère doit être transformé par Dieu à l'image de Jésus pour que tout tourne autour du Seigneur. Qui revient aussi à ce même principe, pourquoi on ne peut pas être chrétien de culture, puisque tout de la vie chrétienne est censé être rendu au Seigneur, tourné vers le Seigneur, vécu pour lui et par lui. Et la reconnaissance, donc, en est un bon exemple dans ce passage. Parce que Paul dit à la fin du verset 17, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La nature humaine serait capable de réduire cela à une simple obéissance machinale, à un acte où on rend une action de grâce à Dieu. Mais Paul va plus loin, puisque avant de dire qu'on doit rendre des actions de grâce à Dieu, dans le verset 15, il dit « Soyez reconnaissants ». Dans le grec, ça souligne même l'idée de devenir un peuple reconnaissant. Dieu veut qu'on rende des actions de grâce au Seigneur, parce que nous sommes un peuple reconnaissant. Il est tout à fait possible de faire une distinction entre les deux. D'ailleurs, c'est assez ironique que cette fête de Thanksgiving a donné lieu, en même temps, j'ai entendu tout à l'heure que l'offre de moins 25% sur les livres, c'était le Black Sunday. C'était la fête de Thanksgiving qui a donné naissance au Black Friday, puis Thursday, puis la Black Week, puis Black Month, puis tout ce qu'on veut. C'est assez ironique, n'est-ce pas, qu'une fête qui est censée être la fête où on rend grâce pour tout ce qu'on a est devenue une fête pour souligner ce qu'on n'a pas et susciter en nous le désir d'avoir davantage et de profiter donc des remises, puisque finalement c'était tout simplement une action commerciale en se disant ben, il y a un trou commercial entre la fête d'Halloween et la fête de Noël, il faut trouver le moyen de pousser les gens à dépenser plus. On va faire des actions spéciales autour du week-end de Thanksgiving pour que les gens dépensent plus, pour que, au lieu de vivre dans la reconnaissance pour ce qu'ils ont, on vit dans l'insatisfaction en voulant ce qu'on n'a pas encore. Donc, on peut rendre l'action de grâce sans être vraiment reconnaissant. Donc Dieu dit, oui, rendez des actions de grâce, mais parce que vous êtes devenus un peuple reconnaissant. Parce que votre cœur a été transformé, parce que votre nature a été transformée. Que ces actions de grâce, comme tout acte qu'on fait pour Dieu, découlent d'une transformation de notre nature que Dieu désire produire en nous. Et c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul écrit « Soyez reconnaissants en plein milieu de tout un enseignement sur nos relations les uns avec les autres. » Puisque finalement, des gens reconnaissants sont des gens qui peuvent vivre des meilleures relations, dont leurs relations seront transformées par leur reconnaissance. Parce que quelqu'un qui est reconnaissant n'est plus jaloux des autres, ne réagit plus par jalousie parce que ben, il est reconnaissant pour ce qu'il a. Si l'autre a autre chose, ben, tant mieux pour lui. Mais moi, je suis reconnaissant pour ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un qui est reconnaissant ne réagit plus par insécurité vis-à-vis de l'autre parce qu'il est reconnaissant pour ce que Dieu fait dans sa vie, pour ce qu'il a. Celui qui est reconnaissant, il peut suivre l'instruction biblique de mettre l'autre à la première place, de penser avant tout à l'autre parce que lui, il est reconnaissant pour ce qu'il a, pour ce qu'il a reçu pour sa vie. Quelqu'un qui est reconnaissant n'est plus obsédé par ses propres droits, ne vit pas en réclamant toujours ses droits vis-à-vis des autres, en étant agressif vis-à-vis des autres parce qu'il veut à tout prix mettre ses droits en avant, parce qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà reçu. En tant que chrétien, ça devrait forcément être d'autant plus le cas. Jésus nous dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Si nous avons reçu cela par la foi en Jésus, comment ne pas être reconnaissant à la base? On a ce qui est le plus important, ce qui a le plus de valeur. Donc le reste, c'est bien secondaire. Ma reconnaissance envers Dieu va transformer tout le reste. Donc Paul dit, en toute chose, rendez des actions de grâce à Dieu, mais parce que vous êtes un peuple reconnaissant, transformé à l'image de Jésus par le Saint-Esprit. Comme dit Paul dans 2 Corinthiens 9, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, ou d'autres traductions, inestimable ou incalculable. » Si vraiment nous vivons par la foi, si nous croyons ce que Dieu dit dans la Bible, nous devenons un peuple reconnaissant, parce que nous avons ce qui est la plus grande valeur de tout ce qu'on pourrait avoir, au-delà de tout ce que ce monde pourrait nous donner. La semaine dernière, après qu'on ait regardé ensemble ce que le psalmiste nous disait sur la louange, je disais, ben, ça serait trop bête de terminer notre culte sans louer ce Dieu, sans mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Même chose ce matin. Après avoir vu ce que Dieu nous dit au sujet de devenir reconnaissant et de rendre des actions de grâce à Dieu, ce serait trop bête de juste plier bagage et de rentrer chez nous. D'autant plus que bah, pour ceux qui vont nous aider à remonter les malles, ce ne serait pas le moment. Mais de toute façon, pour nous tous, ce serait trop bête de partir sans rendre des actions de grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies, pour ce cadeau inestimable qu'il a fait à notre égard en envoyant Jésus mourir pour nous, en nous donnant la vie. Paul met les choses en noir et blanc tout au début. Il dit, normalement, vous devriez simplement être mort. Mais Dieu, dans sa grâce en Jésus-Christ, il vous a ressuscité. Que nous puissions exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour cette résurrection dans laquelle il nous a permis d'entrer. Prenons quelques moments pour dire merci au Seigneur pour sa grâce à notre égard.